Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois de septembre, pour une heure à propos de nos actions et de nos informations pour la promotion et la défense des droits humains. Comme vous êtes sans doute déjà informé, c'est le but effectivement de notre présence à l'antenne. Pour l'animer avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Voilà, alors plein de sujets qu'on va aborder ce soir. On va vous parler de ce qui s'est passé récemment à Lampedusa et des migrants. On va vous parler de vente d'armes à l'Égypte. On va revenir sur un dossier dont on vous a déjà parlé, mais il y a des mises à jour et des informations complémentaires. On va vous parler des droits humains au Soudan, en Éthiopie, à Chypre, etc. Et bien sûr, de nos infos locales, donc en fin d'émission. Donc surtout, ne quittez pas l'antenne avant 20h. Et donc, pour commencer l'émission, on va vous parler, alors je ne sais pas si vous vous intéressez au rugby, c'est possible, à la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce moment en France. Et donc, on va vous en parler, alors pas parce que Amnesty International est pour ou contre le rugby, ça c'est tout à fait indépendant de ce que fait Amnesty International, mais c'est parce qu'en fait, sous prétexte de Coupe du Monde de rugby, il y a la mise en place de vidéosurveillance, on va vous en dire un petit peu plus. Et la vidéosurveillance peut être très attentatoire à nos droits fondamentaux. Donc voilà le petit communiqué d'Amnesty. Si vous assistez à la Coupe du Monde de rugby, profitez-en, car c'est peut-être la dernière fois que vous regardez un match sans être surveillé via l'intelligence artificielle. En vue des Jeux Olympiques 2024, donc à Paris bien sûr, la France a légalisé la vidéosurveillance algorithmique, une première au sein de l'Union européenne. Votée en procédure accélérée en mai 2023, la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit l'utilisation de caméras augmentée dans l'espace public à titre expérimental. La nouveauté avec cette loi, des caméras vont être assistées par l'intelligence artificielle. Ce sont donc des algorithmes, donc des programmes informatiques, qui vont identifier des situations dites anormales. Or, comment définir ce qui est la norme? Comment s'assurer que l'algorithme ne va pas cibler des groupes déjà marginalisés? Comment être sûr que des mesures dites d'exception ne vont pas se pérenniser? C'est donc une loi qui pose problème. Par exemple, avec la loi JO donc 2024, marcher à contresens aux abords d'un stade parce que vous rejoignez vos amis pourrait désormais faire de vous une personne suspecte. Ce qui aura analysé votre mouvement, un algorithme. Ce nouveau dispositif soulève des enjeux nouveaux et préoccupants en matière de respect de la vie privée et de la liberté d'expression. Ces outils d'analyse, d'images peuvent conduire à une collecte massive de données personnelles et permettre une surveillance automatisée et disproportionnée de l'espace public. Il s'agit d'un véritable tournant qui ouvre la voie à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. Par ailleurs, se penser ou se savoir surveillé peut également amener les personnes à modifier leur comportement ou s'auto-censurer. Les algorithmes, donc les programmes informatiques, étant entraînés par des humains, ces technologies ne sont pas exemptes de biais discriminatoires qui pourraient être amplifiés par l'automatisation de la surveillance. Détournées de leur usage initial, ces technologies risquent, à terme, de cibler des groupes déjà marginalisés. Avec ces nouvelles technologies, les risques de discrimination sont réels. Événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, tente d'argumenter le gouvernement pour justifier sa loi JO 2024. Dispositif adopté à titre expérimental jusqu'en mars 2025, tente de rassurer ce même gouvernement. Or, si nous sommes inquiets, c'est parce que cette loi est représentative de la tendance inquiétante des autorités à étendre leur pouvoir de surveillance dans le cadre de mesures d'urgence prises au nom de la sécurité. Il est rare que ces mesures dites d'exception, entre guillemets, soient levées rapidement. En lieu et place, les mesures de surveillance et de contrôle deviennent la norme. Les Jeux olympiques ont déjà servi de terrain d'expérimentation pour doter les États de pouvoirs renforcés, ensuite maintenus lorsque la situation d'exception prend fin. Ces exemples suffisent à justifier nos craintes de voir l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique perdurer au-delà de 2025. Ce qu'il faut craindre en France, c'est l'établissement d'une surveillance généralisée. Et garantir la sécurité ne peut se faire au détriment de droits et des libertés fondamentales. C'est la conclusion de ce communiqué et qui vous appelle, alors n'hésitez pas à le faire, à signer une pétition qui est actuellement en ligne sur le site amnesty.fr. Donc surtout, allez signer la pétition si vous êtes convaincu de ce que vous venez d'entendre et des dangers pour les libertés que représente ce style d'expérimentation. Edith, tu voulais...
Oui, parce que je me dis, bah, on va avoir une réponse. Ah bah oui, mais attendez, on l'a fait pendant les Jeux Olympiques, mais bah, on a tout le matos, ça serait quand même dommage de ne pas continuer. Bon, on le fera que exceptionnellement de temps en temps, quand il y a des grosses manifestations. Et puis voilà, et puis à force, les gens s'habituent. Déjà là, ça a pu être accepté sans grande manifestation de la population ou des représentants députés, sénateurs. Donc c'est quand même bien soucieux.
Ben oui, c'est toujours sous prétexte de garantir la sécurité contre le danger d'attentats terroristes ou autres pendant ces manifestations.
Et là, on peut être fier parce que la France, c'est le premier pays d'Europe
qui
récupère
un
système de surveillance comme ça.
On peut être fier, c'est une façon de voir les choses.
Carrément, mais oui.
Voilà, donc on va passer à un autre sujet qui a trait à l'actualité dont vous avez forcément entendu parler longuement ces derniers jours, c'est... la, entre guillemets, crise des migrants, un vocabulaire qui n'est pas du tout amnistien, parce que nous, on pense que c'est une crise de l'accueil des migrants et pas une crise de migrants. Mais donc, c'est Claire Lise qui est en train de consulter son téléphone portable.
Oui, parce que je cherchais une adresse mail que je voulais vous donner.
C'est Claire Lise qui va vous en parler. Voilà.
Alors, je vais vous parler effectivement de la crise qui est lue à Lampedusa, alors qui se résorbe un petit peu, mais en fait, les migrants, ils sont toujours quand même soit à Lampedusa, soit en Italie. Donc, je vais revenir un petit peu, puisqu'on avait une publication qui date du 15 septembre. Donc, des centaines d'embarcations de fortune sont arrivées sur l'île de Lampedusa en Italie. Plus de 6000 personnes étaient présentes à bord. Face à ce nouveau drame, la réponse des autorités italiennes est très insuffisante, tout comme la solidarité européenne. Un nourrisson âgé de 5 mois seulement a perdu la vie au large de Lampedusa, dans la confusion des opérations de débarquement menées par les gardes-côtes italiens. Sa mère, une mineure guinéenne, a été sauvée avec les 45 personnes avec lesquelles elle voyageait sur une embarcation partie de Sfax en Tunisie. L'agitation était telle à Lampedusa que l'attention s'est vite déportée de ce drame. En 2 jours, ce sont donc plus de 6000 personnes sur plus d'une centaine d'embarcations qui ont débarqué sur l'île par leurs propres moyens ou avec l'assistance des gardes-côtes. Ces personnes proviennent pour la plupart de pays subsahariens. Nombre d'entre elles sont mineures. Elles sont parties depuis la Libye, touchée récemment par le cyclone Daniel, et surtout depuis la Tunisie. Les nombreuses personnes qui ont débarqué à Lampedusa ces dernières années sont confrontées à l'insuffisance de l'intervention de l'État italien. Les médecins et autres professionnels de la santé et les médiateurs sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins, de sorte que les personnes qui arrivent, après avoir voyagé sur des embarcations de fortune dans des conditions très difficiles, sont contraintes d'attendre parfois plusieurs heures au soleil pour obtenir une première prise en charge et un transfert dans des bus de la Croix-Rouge au hotspot de Contrada Imbriacola. Donc ce sont les forces de l'ordre qui gèrent la situation à l'embarcadère de Favorolo et la Guardia di Finanza y a lancé une charge contre un groupe de personnes exilées. Donc les images qui ont été filmées là-bas sont indignes. Entre-temps, le seul centre d'accueil de Lampedusa a largement dépassé son seuil de saturation. Plus de 6000 personnes y étaient présentes pour une capacité de 400 places. Ce qui engendre, bien sûr, une forte promiscuité entre hommes, femmes et personnes mineures. Pour tenter de remédier à la situation, des transferts sont organisés, y compris par des navires militaires, vers d'autres régions italiennes. Alors la Libye et la Tunisie ont conclu avec l'Europe des accords portant sur les flux migratoires. En 2017, l'Italie et la Libye ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du développement, de la lutte contre l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains et la contrebande, et sur le renforcement de la sécurité aux frontières. Ainsi, depuis 6 ans, l'Italie et l'Union européenne offrent des financements, des ressources et des formations aux gardes-côtes libyens qui, en retour, interceptent les personnes exilées et les renvoient vers des lieux où elles subissent systématiquement des violations des droits humains, tels que des actes de torture, des violences et des viols. Voilà, c'est bien le financement européen. En Tunisie, il y a une inquiétante dérive autoritaire depuis plusieurs mois. Donc en juillet 2023, l'Union européenne a signé un accord similaire avec la Tunisie de Kais Saied. Depuis des mois, en Tunisie, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont victimes de violences, d'agressions, d'expulsions sommaires, d'arrestations arbitraires, et elles sont renvoyées dans le désert. Depuis le début de l'année, les autorités ont durci la répression contre toute forme d'opposition politique et incité à la discrimination contre les personnes exilées. Depuis des mois en Tunisie, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont victimes de violences, d'agressions, d'expulsions sommaires, d'arrestations arbitraires, et donc elles sont systématiquement renvoyées. Et il y a quelques semaines, on avait alerté sur le fait qu'il y avait des gens qui étaient renvoyés en plein désert et qui y mouraient. Dans le contexte actuel, des personnes continuent de mourir en mer. L'équipage du navire Nadir de l'ONG allemande Rex Ship rapporte les témoignages d'un groupe de naufragés secourus lors de la traversée entre Sfax et Lampedusa. Ces témoins ont fait état d'au moins 40 personnes noyées sous leurs yeux, tandis que coulait l'embarcation sur laquelle ils voyageaient. Malgré la forte augmentation des départs, aucune opération européenne coordonnée de recherche et de sauvetage n'a encore été mise en place et l'intervention des ONG continue d'être entravée. Le gouvernement italien s'obstine à attaquer les ONG qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage. Dernièrement, le navire Mare Rionio de l'ONG Mediterranea Saving Humans, le seul de la flotte de sauvetage civile battant pavillon italien, a été mis à l'arrêt, soumis à une inspection de plus d'une semaine, au terme de laquelle l'ONG a été sommée de retirer du navire, avant le départ, le matériel et les fournitures embarquées à bord pour l'exécution du service de sauvetage. Donc, un ordre scandaleux et inacceptable, de même que la menace de conséquences pénales pour les armateurs de ce bateau, a commenté Mediterranea, qui conteste la mesure. Selon l'ONG, les autorités italiennes cherchent un prétexte. Le navire est en effet reconnu comme équipé pour l'activité de recherche et de sauvetage et il est enregistré en tant que tel au registre naval italien. Et pourtant, le navire ne répondrait pas aux critères des 2 circulaires émises en décembre 2021 et février 2022 qui requièrent des caractéristiques techniques particulières en ce qui concerne la coque. Une affirmation absurde en soi, a souligné Mediterranea, affirmant que le gouvernement italien voudrait en faire la norme pour tous les pavillons européens afin d'entraver l'ensemble de la flotte civile. Au niveau européen, on constate des signes d'opposition à la perspective d'un engagement commun reposant sur le principe de la responsabilité partagée. L'Allemagne a bloqué la procédure de sélection des personnes exilées arrivant d'Italie. Il s'agit du mécanisme de solidarité reposant entièrement sur le volontariat et insuffisant par lequel les pays européens décident d'autoriser ou non le transfert des personnes exilées sur leur territoire. La position allemande semble intervenir en réaction à la décision prise par l'Italie en décembre dernier de suspendre le mécanisme lié au règlement de Dublin, en refusant d'accueillir les personnes exilées qui ont déménagé en Allemagne après être entrées sur le territoire de l'Union européenne par l'Italie et dont la demande d'asile au titre du règlement de Dublin doit être examinée par les autorités italiennes. La France a également annoncé son intention de renforcer les contrôles entre Menton et Vintimille. Il s'agit d'une zone où la frontière est fermée et militarisée pour les personnes exilées depuis des années. Compte tenu des positions de Berlin et de Paris, la discussion relative au pacte européen sur les migrations, prévue le 28 septembre, s'annonce difficile. Une ébauche du pacte a été présentée au mois de juin. Les États membres semblent ne s'y être accordés que sur un point. L'abaissement des normes en matière de protection pour les personnes qui arrivent sur le sol européen. Le texte prévoit en effet la mise en place de mesures qui conduiront à des souffrances, dont notamment le maintien en détention, sur des périodes allant jusqu'à plusieurs mois, de personnes dans des centres fermés, près des frontières, et la possibilité de renvoyer des personnes en quête d'un refuge vers des pays considérés comme sûrs. Face à la nécessité de repenser les politiques migratoires en vue de protéger les personnes et d'adhérer au principe de la responsabilité partagée, le pacte européen risque au contraire de créer de plus grandes divisions entre les pays situés aux frontières extérieures de l'Union et les pays situés à l'intérieur. Et il s'éloigne de plus en plus du concept de solidarité et de protection des droits. Et donc le week-end dernier, il y a eu la visite du pape à Marseille. Il s'est exprimé très clairement quant à la nécessité d'accueillir les migrants, de les accueillir dans la dignité et de résoudre les crises humanitaires en leur accueillant le droit à vivre là où ils viennent. Et ben, notre président s'est empressé de lui répondre que il comprenait que la France prendrait sa part par rapport aux demandes d'asile, mais que mon pauvre monsieur, on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Ce qui a déjà été dit à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'on sent bien la surenchère des gouvernements par rapport à une crise, des crises migratoires qui, de toute façon, seront de plus en plus importantes, et malheureusement, avec leur flot de drames. Voilà.
Complètement d'accord avec toi, Claire-Lise, effectivement. J'ai entendu aussi ce commentaire de Emmanuel Macron, effectivement, qui a recité cette phrase de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on oublie toujours
la fin de la phrase.
On oublie toujours la fin de la phrase où il disait, mais elle doit en prendre sa juste part.
Voilà.
Donc, c'est tout ce qu'on demande à Amnesty, que la France prenne sa juste part.
Et les autres pays européens, parce qu'il y a aussi vraiment...
Et puis, pour revenir justement à l'accueil des personnes migrantes, je voulais revenir à notre émission d'il y a 15 jours, où je vous parlais de situations dramatiques sur Évreux, puisque je vous ai parlé il y a 15 jours d'un petit garçon qui s'appelle Winner, 7 ans, qui a fait sa rentrée au CP en dormant à la rue. Et bien, aujourd'hui, 15 jours après, Winner et sa maman dorment toujours à la gare SNCF, sous les ponts. J'ai fait un mail, moi, puisque je suis militante aussi au CFED Asti d'Évreux, j'ai fait un mail à l'OFI de Rouen, à la section asile, pour demander un hébergement pour cette maman et son enfant. Alors, il faut dire aussi qu'elles ne sont pas les seules. Il y a plusieurs familles avec des enfants qui sont à la rue actuellement à Évreux. Ça n'émeut personne. Tout le monde se renvoie la balle. Donc le 115, ben, normalement, n'est pas chargé d'accueillir les demandeurs d'asile, puisque ce sont des gens qui ont un récépissé. Ils sont en règle, ils ne sont pas en situation irrégulière. Ils sont demandeurs d'asile, souvent dublinés, donc justement avec le risque qu'ils soient renvoyés dans un pays comme l'Italie ou le Portugal. Mais en attendant, la France, normalement, est tenue de les accueillir comme des demandeurs d'asile, sauf qu'il n'y a pas assez de place dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, il n'y a pas assez de place d'hébergement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à la rue. Le 115 est débordé, et normalement, le 115, lui, dépend du département et n'a pas à accueillir les demandeurs d'asile. La mairie, bien sûr, c'est pas son rôle non plus. Tout le monde s'en fiche. Et Winner, il est toujours à la rue. Voilà. Dans une froide indifférence. Moi, j'ai une froide colère en vous en parlant. Parce que j'ai l'impression que ce petit garçon, son avenir, tout le monde s'en fiche.
Alors, on peut dire qu'on va rappeler ce qu'on avait dit autrefois, que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des solutions d'hébergement, soit chez eux, soit des gens qui connaissent qui pourraient le faire, de nous contacter. On fera suivre à Évreux. Un petit mail à evreux@amnestyfrance.fr. Donc n'hésitez pas. Voilà.
Des gens, des entreprises, des organisations, des municipalités, voilà.
Voilà.
Il y a Évreux, mais il y a peut-être des communes à côté qui ont un peu plus le sens de l'accueil.
Voilà, vous nous contactez evreux@amnestyfrance.fr. Merci d'avance. On va passer à la première pause musicale et on se retrouve juste après.
et de bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frappé à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Le ciel bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Goût de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, oui, je dis bien, c'est Amnesty International. On vient d'entendre Bernard Lavilliers pour un morceau qui s'appelle L'Exilé et qui était tout à fait en rapport avec ce que vient de vous dire, effectivement, Claire Lise. Et donc, on va passer à la suite, mais c'est Edith qui va vous en parler.
Voilà, bah écoutez, moi j'ai trouvé, enfin vous avez peut-être entendu cette info comme quoi une journaliste a été mise en garde à vue et que son domicile a été perquisitionné. Donc, cette journaliste, elle travaille pour Disclose, cette organisation qui essaye de savoir un peu plus ce qui se passe en France et dans d'autres pays. Et j'ai retrouvé aussi sur le site d'Amnesty, qui s'est mis tout à fait d'actualité, une petite représentation de ce qu'elle a pu découvrir lors de ses enquêtes. On va déjà écouter ça et après on va refaire un petit point d'actualité.
Donc on écoute l'enregistrement d'Amnesty.
La France a toujours entretenu des relations avec l'Égypte. On pourrait remonter jusqu'à Napoléon ou la campagne d'Égypte pour les férus d'histoire, mais avançons un peu dans le temps jusqu'au début des années 70. En 1971, les relations entre les deux pays se renforcent avec l'ouverture d'une mission militaire française à l'ambassade de France. Une mission qui permet alors le transfert d'armes telles que des avions de combat type Mirage 5 ou le Mirage 2000, des hélicoptères type Gazelle et le service après-vente qui va avec. Et cette coopération est encore d'actualité. L'ambassade le dit d'ailleurs elle-même sur son site internet. La France et l'Égypte entretiennent des relations de défense toujours plus élaborées, reposant sur plusieurs accords bilatéraux et en particulier sur l'accord de coopération militaire. Des contrats prévoient d'assembler des armes françaises sur le territoire égyptien, voire même de produire certains composants sur place. Si bien que la France est devenue ces dernières années un des fournisseurs clés d'armes à l'Égypte. Alors jusqu'ici, on ne voit pas vraiment où est le problème. Il s'agit d'un commerce d'armes entre deux pays, comme il en existe beaucoup. Mais voilà, La France a pris des engagements européens et internationaux. Elle doit par exemple respecter le traité des Nations Unies sur le commerce des armes, appelé aussi TCA. Un traité signé par plus de 97 pays à travers le monde. Le point principal à retenir de ce traité est très simple. Un pays ne doit pas vendre des armes à un autre pays s'il existe un risque qu'il les utilise pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains. La France, comme les autres pays, doit donc respecter ce traité qu'elle a signé, ratifié et même promu. Et tout le problème est là. L'Égypte, à partir de 2011, est secouée par une de ses plus graves crises. Répression sanglante des manifestations, arrestations et procès de masse, tortures, disparitions forcées, et la liste est encore longue. Le 25 janvier 2011, d'importantes manifestations éclatent contre Hosni Moubarak, le président de l'époque. Sa chute en 2011, l'arrivée du président Morsi en 2012, le coup d'état militaire qui s'ensuit et l'arrivée du général Al-Sisi à partir de 2013 n'y changeront rien. Peu importe le régime qui réprime dans le sang ses citoyens, la France va continuer à livrer des armes à l'Égypte en quantité astronomique. En 2017, comme le montre cette courbe, le gouvernement avait livré pour plus d'un milliard d'euros d'armes. Et pourtant, à cette même période, la France fait la promotion du traité sur le commerce des armes. En 2013, Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, déclare sur ce traité « Je souhaite que notre pays puisse montrer l'exemple en étant l'un des premiers grands États à s'engager. » Et dans un autre communiqué du même ministère, la France condamne les événements en Égypte. La France déplore très vivement les violences survenues au Caire lors des opérations d'évacuation. Elle présente ses condoléances aux familles des victimes. Il est essentiel que ces violences cessent et qu'une logique d'apaisement prévale. La France a donc livré d'énormes quantités d'armes à un pays qui réprime ses citoyens, tout en faisant la promotion du TCA, traité censé protéger les civils. Un bel exemple d'hypocrisie made in France qui soulève des inquiétudes. Dès 2011, nous écrivons au gouvernement français. Les armes livrées ne doivent pas servir à réprimer la population égyptienne. Pour nous, les réponses du gouvernement n'étaient clairement pas suffisantes et loin d'être transparentes. C'est pour cela que nous avons décidé de mener l'enquête. Nous avons donc fait appel à notre équipe de vérification numérique dirigée par Sam Dubelet.
Bonjour, je suis Sam Dubelly, je travaille chez Amnesty International et j'ai un projet qui s'appelle Digital Verification Course, qui est un réseau d'étudiants partout dans le monde qui sont formés par Amnesty pour faire la vérification sur les vidéos. L'équipe Digital Verification Corps a travaillé plus d'un an sur la recherche sur les ventes des armes de la France vers l'Égypte.
Notre organisation a analysé plus de 20 heures de vidéos et plusieurs centaines de photos.
On cherche partout où on peut. Ça veut dire des réseaux sociaux, comme YouTube, comme Twitter, comme Facebook. Ça veut dire des journaux télévisés comme France 2, France 3, TF1, etc. Donc vraiment là où on peut trouver quoi que ce soit, on fait notre recherche.
Nous avons trouvé une dizaine d'éléments prouvant que des armes françaises étaient directement impliquées dans la répression des manifestations.
Par exemple, en août 2013, place de la Rabia, où plus de 1000 personnes ont été tuées par les forces égyptiennes dans une journée. On a vu dans plusieurs vidéos des véhicules français qui transportaient la police. On a vu dans plusieurs vidéos la police égyptienne qui tirait des armes sur la population depuis des véhicules français. C'est-à-dire des véhicules, des Sherpa, des Mids, vendus par Renault Defense Truck, utilisés par la police égyptienne dans la répression des manifestations entre 2011 et 2015.
Enfin, nous avions des preuves. Des armes françaises ont été utilisées pour réprimer la population égyptienne. Malgré cela, la France continue de nier l'évidence. En 2016, après une visite de François Hollande en Égypte, les ONG, dont Amnesty International, sont reçues à l'Élysée. Lors de ce rendez-vous, les représentants de la présidence semblaient ne pas être au courant des livraisons répétées et importantes de véhicules blindés à destination de l'Égypte. Remettant en cause l'existence de ces livraisons et affirmant que cela s'était déroulé avant 2011, donc avant la répression égyptienne. Ce qui n'a pas manqué de nous étonner, car l'ensemble des données officielles indiquent justement le contraire. Aujourd'hui, l'Égypte est toujours en pleine crise des droits humains. Le gouvernement d'Al-Sisi fait régner un climat de terreur et les procès de masse de manifestants sont monnaie courante. Quant à la France, elle ne joue toujours pas le jeu de la transparence. Un bien bel exemple pour un pays qui fait la promotion d'une éthique internationale en matière de vente d'armes. La France continue d'ailleurs d'en vendre aux quatre coins du monde. En tant que troisième exportateur mondial d'armes, elle se doit de respecter les traités qu'elle a signés et même promus. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas encore le cas. Tout n'est pas perdu. Il y a de cela quelques mois, nous avons réussi à faire pression grâce à votre mobilisation. Nous avons interpellé les députés sur les réseaux sociaux pour qu'ils prennent position. Et pour la première fois, des élus de toutes tendances politiques se sont exprimés publiquement pour dénoncer le manque de transparence du gouvernement en matière de vente d'armes et défendre l'idée d'un contrôle parlementaire. Pour que la France soit complètement irréprochable sur ces ventes d'armes, nous avons encore besoin de vous. Agissez avec nous en cliquant sur le lien qui s'affiche. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Éclairage. Si notre travail vous intéresse, partagez la vidéo ou parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode.
Voilà, donc c'était l'enregistrement. La vidéo, vous pouvez bien évidemment la voir sur le site amnesty.fr sans problème.
Absolument, allez la voir parce qu'il vous manque quelques petits graphismes. Mais bon, en audio, elle était quand même très représentative de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on vous la passe.
C'est ça.
Voilà, alors donc, je reprends maintenant l'actualité. Donc, cette journaliste, Ariane Lavrieux, a travaillé sur ces enquêtes. Et le 19 septembre dernier, la DGSI, donc a placé en garde à vue cette journaliste et a perquisitionné son domicile. La journaliste a notamment contribué aux révélations sur l'opération Sirli en Égypte. Alors, suite à son arrestation, Agnès Calmar, la secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré « Il est très inquiétant que presque 2 ans après les révélations selon lesquelles la France se serait rendue complice de l'exécution extrajudiciaire de centaines de personnes en Égypte, ce soit la journaliste qui soit visée plutôt que les responsables présumés. » Alors, Ariane Lavrieux a été libérée le 21 septembre, soit après 39 heures de garde à vue, où elle était entendue par la DGSI, elle n'aurait jamais dû être arrêtée. Alors, je vous fais quelques petites précisions. Bon, notre petit extrait était quand même assez clair, mais ce média d'investigation Disclose a obtenu un grand nombre de documents classés confidentiels. Les sources sont anonymes et elles doivent être respectées dans le cadre des enquêtes de journalistes. Ça, c'est aussi la loi. Et s'il y a eu ces sources qui ont transmis ces informations, Disclose a précisé que ce qui fait rompre le silence, ce sont les dérives de l'action politico-militaire française qui entaillent profondément ce pourquoi des hommes et des femmes sont au service de la France. Car donc, on parle effectivement des voitures blindées qui ont été vendues à l'Égypte et qui ont servi à maîtriser les manifestations, mais il y a aussi une histoire d'un avion. Un avion que la France a fourni à l'Égypte, logiquement, pour surveiller les frontières et ne permettre au terrorisme de rentrer. Mais en fin de compte, cet avion, il était piloté par des Français, censé scruter le désert occidental. Et ils se sont rendus compte très rapidement que les informations qu'ils donnaient au gouvernement égyptien étaient tout autres. Bon, sur la frontière, il y avait des gens qui étaient plutôt des contrebandiers qui transportaient des drogues, de l'essence, du maquillage. Et un officier français a averti la direction du renseignement militaire pour dire « Attendez, on leur donne des infos et eux, ils en profitent pour aller tirer sur ces gens qui manifestement ne sont pas des terroristes ». Donc les autorités françaises ont bien su ce qui s'est passé, mais elles ont continué. Donc c'est sur ça aussi que Disclose a fait des interventions. Et on peut comprendre que certains, peut-être, enfin je ne les mets pas du tout en cause, mais certains militaires n'ont pas trop compris et on avait envie aussi que ces enquêtes aillent jusqu'au bout, quoi. Donc les ventes d'armes, effectivement, c'est qu'on dit la France, absolument, elle est très très bonne en vente d'armes. La satisfaction du client égyptien, avant tout. Et Jean-Yves Le Drian, pendant des années, alors ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a permis à la France de décrocher des contrats d'armement se chiffrant en milliards d'euros avec l'Égypte. Il serait même devenu le leader de la diplomatie des armes, précise Disclose. En 2015, c'est lui qui aurait également initié l'opération Sirli avec son homonyme égyptien. Donc là, Sirli, c'est cet avion qui a envoyé plein d'infos et qui a permis aux Égyptiens de tirer carrément sur des gens. Parce que ça correspond à plus de 1000 morts quand même. Hein. C'est pas juste une fois on s'est trompé. Hein. C'est carrément quelque chose de quotidien. Donc, le soutien de la France au régime répressif du président algérien égyptien Al-Sisi semble vraiment sans faille. Pourtant, ni l'alliance stratégique avec l'Égypte au nom de la lutte contre le terrorisme, ni les intérêts économiques liés aux ventes d'armes et de technologies de surveillance ne sauraient justifier que la France bafoue ses engagements internationaux. Disclose a également relevé que 3 entreprises de surveillance françaises, Nextat Technologies, Dassault Systèmes et Aircom Suneris, auraient vendu leur technologie de surveillance à l'Égypte, avec la bénédiction de l'État français. Ces outils auraient facilité la répression de la société civile. Pour rappel, utiliser des technologies de surveillance pour cibler des représentants ou des membres de la société civile est illégal. La réponse de l'État français doit vraiment être à la hauteur. Et depuis 2 ans, on attend. Donc Amnesty reprend, refait des demandes carrément au niveau du rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, demandant des enquêtes, demandant aussi une commission d'enquête parlementaire. Et c'est ce que vous avez entendu à la fin du petit reportage, c'est qu'il y a un an, donc, puisqu'il date il y a un an, il y avait des députés qui étaient prêts à demander de faire leur rôle de surveillance par rapport aux ventes d'armes. Et alors, on a deux... Ça n'a pas continué. Disclose dit que le gouvernement français a arrêté tout de suite ses velléités de savoir un peu ce qui se passait dans le commerce des armes.
C'est étonnant.
Voilà. Mais Amnesty voudrait quand même bien que ça continue. Et je trouve que ce rebondissement de l'interpellation, enfin la garde à vue de la journaliste, peut remettre à jour une pétition qui est sur le site d'Amnesty actuellement et qui est adressée aux 2 députés qui avaient commencé à faire cette enquête et à dire « oui, il faut absolument que nous, on ait la main aussi sur ça ». Donc c'est, je les cite, Jacques Maire et Michel Tabarot. Et on peut aussi, nous, interpeller notre député, c'est-à-dire demander que l'Assemblée nationale fasse son rôle de surveillance, de clarté dans les ventes d'armes, et ça, c'est carrément normal. Et un peu, donc, vous pouvez... C'est très simple, je suis allée sur le site hier soir, vous allez voir sur le site d'Amnesty, vous continuez un peu à agir et vous tombez sur ces députés-là et 2 autres personnes pour des tweets. Mais on peut faire nos députés, donc si vous êtes sur Évreux, bah, c'est selon la région Évreux Nord, Évreux Sud, vous avez 2 députés, Katia Levavasseur et le deuxième, je ne sais plus son nom.
Je ne sais plus non plus.
Voilà, mais vous pouvez. Alors, enfin, vous allez dire, écrire à un député, mais ça sert à quoi? Eh bien, c'est une action efficace. Les députés sont extrêmement sensibles aux interpellations des électeurs, en particulier ceux de leur circonscription. Donc, moi, c'est Katia Levavasseur à qui j'ai adressé mon mail. La force des nombres. Ces élus, donc les députés, ont la possibilité d'interpeller le gouvernement en lui posant des questions écrites ou orales. Et si le nombre des questions est important, c'est-à-dire que plein de députés posent la même question, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vente des armes? Le gouvernement est plus enclin à y répondre et à engager un dialogue. Troisièmement, les députés peuvent faire une action groupée, même ils peuvent faire plus en étant plusieurs à interpeller le gouvernement dans le même courrier ou en interpellant le président du groupe. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est soyez nombreux à les solliciter pour que effectivement, on puisse avoir cette loi de clarté et que la France arrête de vendre n'importe ses armes à n'importe qui, alors que le traité des armes interdit de le vendre à un pays où on sait qu'elles peuvent servir contre la population de ce pays.
Juste pour compléter ce que tu viens de dire, comme on ne se rappelle plus effectivement du nom de tous nos députés, il y en a tellement, je rappelle que c'est très facile à trouver sur le site de l'Assemblée nationale, c'est classé par département et par circonscription.
Le lien d'Amnesty le renvoie sur ceux du site et vous choisissez, vous avez le mail, c'est vraiment très très
même
simple.
Même s'il y a des gens qui nous écoutent en dehors de l'heure, ils peuvent contacter leurs propres députés en allant sur le site de l'Assemblée, ils vont trouver leurs coordonnées.
Et le mail est déjà fait, donc je ne vais pas vous le lire, mais bon, la demande est très claire.
Bon, on leur tourne toujours trop vite par rapport à tout ce qu'on a à dire, mais il y a Claire Lys qui voulait vous parler de la situation des droits humains au Soudan.
Oui, alors j'espère que je vais avoir assez de temps avant la deuxième pause musicale, parce que c'est un sujet qui a déjà été reporté la dernière fois.
Tu vas dépasser voilà. Sur la troisième partie.
Ouais. Alors, depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à un violent conflit opposant les 2 principales forces armées du pays, attaques délibérées et aveugles, pillages systématiques, violences sexuelles, nous publions un nouveau rapport pour dénoncer l'ampleur des violations et des crimes de guerre commis à travers le pays. Alors j'ai choisi de vous parler du Soudan parce qu'on n'en parle pas très très souvent, on n'en parle pas beaucoup à la télévision non plus, mais ce sont des pays comme l'Éthiopie, dont je parlerai tout à l'heure aussi, où il se passe vraiment des choses terribles. Donc partout au Soudan, les civils sont confrontés chaque jour à une horreur inimaginable. Alors qu'une lutte acharnée oppose les forces d'appui rapide et les forces armées soudanaises pour le contrôle du territoire depuis le 15 avril 2023, nous dénonçons les atteintes massives aux droits humains commises contre la population civile. Les deux principales forces armées du pays qui s'opposent mènent des attaques aveugles et délibérées contre des civils. Elles n'hésitent pas à cibler des bâtiments publics, hôpitaux, églises, etc., et des infrastructures humanitaires, et se livrent donc à des pillages. Des gens sont tués chez eux, ou alors qu'ils cherchent désespérément de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Ils sont pris entre deux feux quand ils s'enfuient et abattus délibérément lors d'attaques ciblées. Des dizaines de femmes et de filles, n'ayant parfois pas plus de 12 ans, ont été violées et soumises à d'autres formes de violences sexuelles par des belligérants des deux camps. Il n'y a pas d'endroit sûr. Donc les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide, ainsi que les groupes armés qui leur sont affiliés, doivent cesser de cibler les civils et doivent garantir la sécurité de tous ceux qui partent pour échapper à la violence. Des mesures urgentes doivent en outre être prises pour garantir la justice et pour que les victimes obtiennent réparation. Il y a presque 4 millions de Soudanais qui ont été forcés d'abandonner leur maison en l'espace de 3 mois. Cela risque de devenir l'une des pires crises de déplacement forcé dans le monde. Alors ça, on n'en parle jamais à la télévision française. Compte tenu de l'ampleur des débats, des combats et de l'organisation des deux camps, il s'agit d'un conflit armé non international au regard des conventions de Genève. Dès lors, les affrontements entre les deux parties sont régis par le droit international humanitaire qui vise à protéger les civils et les autres non-combattants lors de conflits armés et par le droit international relatif aux droits humains qui continue de s'appliquer. Certaines graves violations de ces règles constituent des crimes de guerre pour lesquels la responsabilité pénale individuelle de soldats et de commandants peut être engagée. Alors, notre rapport, intitulé « La mort a frappé à notre porte », porte essentiellement sur les faits relevés à Khartoum et au Darfour occidental. Nous avons interrogé 181 personnes pour préparer ce rapport, essentiellement dans l'est du Tchad, en juin 2023. Et à distance en utilisant des moyens de communication sécurisés. Nous avons également examiné de nombreux documents audiovisuels montrant de possibles violations ainsi que des images satellitaires pour corroborer d'autres faits. Donc là, j'avais beaucoup d'exemples de témoignages de civils, donc je ne peux pas tout vous lire, mais les civils sont délibérément pris pour cible. Ce que nous dénonçons, c'est donc que ces civils délibérément tués ou blessés lors d'attaques ciblées, notamment par des membres des forces de l'armée soudanaise. Et ce que dit le droit international, c'est qu'il interdit de prendre délibérément pour cible des civils et de mener des attaques sans opérer de distinction entre les civils et les combattants ou entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. On en a déjà parlé aussi quand on parlait de l'Ukraine par rapport aux attaques ciblées sur les civils. Au Darfour occidental, des attaques sont motivées par l'appartenance ethnique. Et ce que nous dénonçons avec la montée des tensions au Darfour, c'est que de nombreuses personnes appartenant à l'ethnie Massali se sont enfuies dans l'est du Tchad. Des personnes ayant fui El Djemena ont dit à Amnesty International que la ville avait été attaquée par des milices armées arabes lourdement armées et soutenues par des combattants, des forces armées soudanaises. Alors, ce que dit le droit international humanitaire, c'est qu'il est interdit de prendre délibérément pour cible des civils et de mener des attaques sans opérer de distinction, ce que je venais de dire, entre les civils et les combattants. Et le 28 mai, plusieurs dizaines de civils ont été tués à Misteraï, une ville située au sud-est d'El Djamena, lors d'affrontements opposant les forces armées soudanaises et des milices alliées à des groupes armés Massali. Donc, des habitants de cette ville ont dit à Amnesty International avoir enterré 58 civils ce jour-là. Et puis, ce que nous dénonçons aussi, c'est que donc des dizaines de femmes et de filles, donc tout à l'heure, je vous disais, des petites jeunes filles qui avaient à peine 12 ans, ont été soumises à des violences sexuelles, notamment des viols, par des belligérants des deux camps. Certaines ont été séquestrées pendant plusieurs jours dans des conditions constituant un esclavage sexuel. Et dans la plupart des cas examinés, les victimes ont déclaré que les responsables des sévices étaient des membres des forces armées soudanaises ou de milices armées alliées à ces dernières. Donc, l'esclavage sexuel et les autres violences sexuelles commises dans le cadre d'un conflit armé constituent des crimes de guerre, ce que nous dénonçons. Et nous dénonçons aussi l'absence de soutien médical et psychologique, donc, parce que de nombreux centres médicaux et humanitaires ont été détruits ou endommagés partout dans le pays, ce qui prive les civils de nourriture et de soins et de produits médicaux et qui aggrave encore une situation déjà très difficile. Donc, il est scandaleux et déplorable que ce qui se passe au Soudan ne fasse pas l'objet de l'attention et que cette crise mérite et que les pays européens ne soient pas prêts à accueillir au moins une partie des réfugiés soudanais. Et face à ces violences terribles, ces violations terribles, la communauté internationale doit étendre immédiatement à l'ensemble du Soudan l'actuel embargo sur les armes qui s'applique actuellement au Darfour et veiller à ce qu'il soit appliqué. Quant aux pays qui disposent d'une influence importante sur les parties au conflit, ils doivent utiliser leur position pour les pousser à mettre fin aux atteintes aux droits humains. Donc les réponses des forces armées face aux résultats de nos recherches, c'est vraiment très difficile. Et Amnesty demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'étendre à l'ensemble du Soudan donc cet embargo sur les armes. Et la communauté internationale doit considérablement accroître l'aide humanitaire pour le Soudan et les pays voisins doivent veiller à ce que leurs frontières soient ouvertes pour les civils en quête de sécurité. Le Conseil des droits de l'homme doit tenir compte des appels lancés par l'autorité intergouvernementale pour le développement et mettre en place un mécanisme indépendant d'enquête et de reddition de comptes qui sera chargé de contrôler, réunir et conserver les preuves des violations des droits humains commises au Soudan. Voilà.
Merci Clarisse pour cette information très complète.
Non, mais c'est bien de parler aussi de pays qui ne font pas l'actualité, où il y a des conditions absolument terribles, surtout pour les populations, les femmes.
Tout à fait. Et quand ça se passe en Afrique, j'ai déjà remarqué que les infos mainstream, les chaînes d'infos principales, ont du mal à en parler quand même très souvent.
Puis là, il n'y a pas tellement d'intérêt, économique.
Quelques secondes de musique et on se retrouve juste après. Yeah.
Sinora, viens on saute sur la piste. On se prouve que l'on vit, qu'on existe. On résiste, bien qu'on doute, qu'on hésite. On écoute les battements de cœur, les signes. Tant d'hélas, d'à quoi bon qu'on remplacera par nos rêves qu'on embrassera. Viens on danse sur ces mots doux, cette centellia, cette magie noire, ce vaudou. Sinora, yeah. Sinora, Sinora. J'ai chanté les hauts, j'ai chanté les bas sans attendre la victoire. Inventé des mondes, réenchanté l'aube sans attendre le grand soir. J'ai bravé tous les dangers, Sinora. Toute cette beauté qu'on a fait, c'est nos larmes. Venant de l'au-delà, la musique est pour l'âme. Des chants d'Alabama aux prières de Brahman. J'avance, marche sur des larmes en jambes, des coulées de lave. Le diable dans les parages frotte façon Kizumba. Je vis dans mes chaos, je rembobine mes larmes, je reprends à zéro, je tire un rêve réel, la gâchette à mes lèvres, les mots fusent dans le ciel, se logent dans des comètes. Yeah. Sinora, Sinora. Yeah. Sinora, Sinora. Sinora. de la mer brillante Caraïbe, aux rives Tanganyika. Combien de fois sommes-nous tombés, et pourtant, nous venons de si loin que l'on s'étonne encore d'être là, juchés sur les épaules des géants.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la troisième et dernière partie de son émission. Et donc, on vient d'écouter Gaël Faye, voilà. Et je crois que Edith voulait vous parler.
Non, mais j'ai laissé la priorité à Claire Louise.
Voilà, voilà, pendant la pause musicale,
on a changé, on te l'a
pas
dit. Je reviens sur ce petit garçon de 7 ans, Winner, qui a fait sa rentrée au CP et qui, donc, depuis la rentrée, dort
depuis
dans la rue.
Mois,
depuis
carrément.
Un mois, puisqu'en fait, sa maman a été enregistrée comme demandeur d'asile le 25 août 2023 à la préfecture de Rouen. Donc, sa maman s'appelle Madame Diavanga Titina. Son petit garçon s'appelle Winner, il a 7 ans, il a fait sa rentrée au CP. Et donc, comme il n'y a pas de place pour les demandeurs d'asile, il n'y a pas assez de place, ils sont à la rue depuis un mois. Et si sa situation vous touche, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail que j'ai retrouvée pendant la pause musicale. Donc, c'est asile.rouen, en minuscule, @ofii.fr asile.rouen@ofii.fr.
Ofii, il y a deux i.
Il y a deux i, voilà, parce que c'est l'immigration. Enfin, voilà. Et donc, vous pouvez faire un mail en demandant un hébergement pour les personnes demandeurs d'asile à Évreux. Il y a plusieurs familles avec des enfants, dont Madame Diavanga Titina et son fils Winner, 7 ans, pour qu'ils aient un hébergement digne et que de mettre fin à une situation qui est intolérable et qui malheureusement se renouvelle de plus en plus souvent. Voilà, c'est tout.
Merci. Et donc,
alors, bah,
donc,
c'est compliqué de reprendre derrière ça.
On
quoi.
Revient, voilà. On revient et c'est Edith qui va
donc,
vous parler d'autre chose.
Moi, je vais faire juste une petite information. Alors, vous le savez déjà, mais bon, je pense aussi qu'il faut le rappeler. Certains pays continuent à utiliser la peine de mort à outrance. Et dans ces pays-là, on va nommer l'Arabie Saoudite. Les autorités y poursuivent leur frénésie meurtrière. Donc la directrice du programme d'Amnesty Afrique du Nord et Moyen-Orient, Eba Moraïef, déclare cela offrant un vif contraste avec les promesses répétées de l'Arabie Saoudite de limiter son recours à la peine de mort. Les autorités ont déjà exécuté 100 personnes cette année, révélant leur profond mépris à l'égard du droit à la vie. Et cette frénésie meurtrière fait craindre le pire pour la vie de jeunes gens se trouvant dans les quartiers des condamnés à mort et condamnés pour des faits commis alors qu'ils avaient moins de 18 ans. Donc l'Arabie, vous savez, c'est l'un des pays qui procède au plus grand nombre d'exécutions. Pour ce seul mois d'août, l'Arabie saoudite a exécuté en moyenne 4 personnes par semaine, dont un Pakistanais condamné pour trafic de drogue. Or, au terme du droit international, les infractions à la législation sur les stupéfiants n'entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves. Seuil minimum prescrit pour les crimes passibles de la peine de mort. Alors dernièrement, des condamnations sont régulièrement prononcées. En juillet 2023, le tribunal pénal spécial a condamné Mohamed Al-Ghamdi à la sentence capitale pour de simples tweets critiquant les autorités saoudiennes. Son frère Nasser a déclaré à Amnesty International que sa condamnation à mort était un acte de représailles contre ses propres opinions politiques. Amnesty s'oppose à la peine de mort de toutes les façons. Mais là, vraiment, il faut absolument arrêter ça et des condamnations qui ne correspondent à rien.
Oui, effectivement, c'est sûr que le combat pour la peine de mort est un combat important et que mène depuis très longtemps.
112 pays ont aboli la peine de mort.
Oui, alors que je rappelle toujours qu'il y a à peu près une cinquantaine d'années, il n'y avait pas 112 pays qui avaient aboli la peine de mort, mais moins de 40. Donc ça a quand même évolué dans le bon sens.
C'est quand même progressé, mais il y a des pays qui sont absolument intouchables et avec des condamnations qui sont complètement illogiques.
Ah, des pays intouchables, c'est pas
intouchables qui semblent intouchables par ce raisonnement.
Oui, ça me rappelle une phrase d'une pensée de Nelson Mandela qui avait dit « On croit que c'est impossible à faire jusqu'à ce qu'on l'ait fait ».
Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on le redit. On le redit, voilà. Il faut donner l'information.
Donc, info locale. Donc, on se retrouve, sur l'antenne de Principe Actif pour notre prochaine émission d'Amnesty. C'est... je l'avais noté.
Le 17 octobre.
Le mardi 17 octobre.
Alors, n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on veut pas vous parler, mais il y a des mois qui ont 5 semaines. Et alors, décale.
On se retrouve le mardi 17 octobre en direct de 19h à 20h sur l'antenne de Principe Actif. Et on a une autre émission de radio, Fréquence Droits Humains, consacrée au handicap. Et ce sera le jeudi 19, donc juste après, le jeudi 19, en direct à 18h, là aussi sur l'antenne de Principe Actif. Mais on va revenir sur une information importante, qui est notre prochaine foire aux livres. Et oui, on fait une deuxième foire aux livres cette année, et ce sera le dimanche 15 octobre. Donc on ne sera pas de retour à l'antenne avant cette prochaine foire aux livres, c'est pour ça qu'on vous en parle longuement ce soir. Cette foire aux livres aura lieu donc sur le parking de l'espace Saint-Léger, comme on l'a fait depuis des années, juste devant le local d'Amnesty. Et à la sortie d'Évreux en direction de Gravigny et Cap-Carré, c'est très facile à trouver. Et donc le dimanche 15 octobre de 9h30 à 17h, des milliers de livres qui nous ont été donnés, qu'on a triés, des milliers de livres
à des prix très très bas, pour
tout à fait symbolique, effectivement.
Oui. Refaire leur bibliothèque et trouver des livres scolaires aussi pour les jeunes. On a des classiques.
C'est ça. Il y a effectivement des milliers de titres dont vous trouverez forcément votre bonheur. Et on vous rappelle que ces ventes de livres que l'on fait permettent effectivement au groupe Amnesty International Évreux de se financer. C'est notre principale source de financement pour l'année, pour assurer nos frais, parce qu'Amnesty, effectivement, ne fait jamais de demande de subvention à quelque autorité politique ou autre qu'elle soit.
Une part.
C'est ça.
Amnesty France aussi fasse des actions en France et à l'étranger. Il y a des pays que l'on soutient.
C'est ça. Donc c'est effectivement l'achat de livres que vous faites avec nous qui nous permet effectivement de nous financer, ce qui est aussi très important. Et on vous rappelle qu'il y aura des signatures de pétitions et d'informations aussi pendant cette journée. Donc c'est le dimanche 15 octobre, donc ça va arriver très vite.
Vous allez voir des petites affiches jaunes bientôt partout en ville.
On va en coller en ville, effectivement.
Et des banderoles.
Dimanche 15 octobre, de 9h30 à 17h, sur la place du parking du Faubourg Saint-Léger, ici à Évreux. Voilà. Et donc, on va rendre l'antenne au laboratoire. On est très contents qu'ils prennent la suite, effectivement. Et nous, on se retrouve donc à la radio le mardi 17 octobre, 19h, en direct sur l'antenne de Principe Actif.
Bonsoir.
Donc voilà, bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.